Salut à toutes et à tous, pod auditrices, pod auditeurs. Heureux de vous retrouver pour cette sixième édition de Podcast et nous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un podcasteur prolifique, puisqu'il s'agit d'Henri Michel, auteur du podcast Bazoucast. Mais avant toute chose, le jingle.
Podcast et nous, pour le pod auditeur.
Alors, comme vous pouvez le remarquer, une émission plus longue que d'habitude, plus d'une heure, une interview fleuve, mais que j'ai eu du mal à couper, dans le sens où Henri Michel parle avec passion de l'univers qui le fait vibrer, à savoir la musique, univers dans lequel aujourd'hui beaucoup se déchirent face au problème du peer-to-peer et du téléchargement illégal. Henri Michel qui réfléchit, essaye de poser un regard neuf pour tenter de réconcilier les artistes avec l'économie musicale. C'est donc une interview plein de sincérité, loin de la langue de bois que je vous invite à découvrir. Une interview dans laquelle on dialoguera, bien entendu, sur son podcast Bazoucast, mais aussi beaucoup de tout ce qui tourne autour des podcasteurs francophones et des artistes qui essayent de survivre face à la mutation de l'industrie musicale. Mais comme à l'accoutumée, avant de retrouver l'interview proprement dit, tout de suite un extrait de Bazoucast.
Le paradoxe du singe savant est un théorème qui affirme qu'un singe qui tape au hasard sur le clavier d'une machine à écrire durant une durée illimitée finira forcément par taper une œuvre de Shakespeare. Le théorème de Bazoucast affirme qu'un groupe de musiciens amateurs réunis dans un garage pour une durée illimitée finira forcément par composer le tube du siècle. Merci, merci, merci beaucoup, super.
Salut Henri.
Salut Monsieur Vertigo.
Alors, tu es l'instigateur, l'auteur et l'animateur du podcast Bazoucast depuis le mois d'août 2005. L'émission 10 de la saison 1 est ton dernier opus et il est en ligne depuis le 14 mai dernier. Mis à part ta voix, tes goûts musicaux et quelques photos déguisées de toi, on ne sait finalement que très peu de choses sur ta personne. Prends-tu du plaisir à cultiver le mystère de ton personnage ?
Non, il n'y a pas spécialement de volonté de mystère dans la démarche. D'ailleurs, au début de Bazoucast, la photo qui était dispo de moi sur le site était non grimée. La barbe est un accessoire à part entière pour moi de Bazoucast. Je suis grand fan de postiche en général, ainsi que des amis très proches, et d'ailleurs je pense qu'en général, on devrait utiliser plus souvent les postiches dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour aller à la banque, je mettrais bien des fausses moustaches de temps en temps, ça donne beaucoup de crédibilité. Bref, la barbe pour Bazoucast, c'est le deuxième présentateur, c'est un accessoire essentiel, c'est une vraie valeur ajoutée dans ma manière d'être Henri Michel de Bazoucast. Donc pas de mystère particulier, après c'est pas un... On est trop habitué, je pense, des blogs qui ont un côté journal intime. Là, c'est pas un blog, c'est pas un journal intime, c'est une émission où je parle de musique, où je parle pas forcément de moi.
Henri Michel, c'est ton vrai nom ?
En partie.
En partie. Et tu vas déguiser aussi au bureau, je suppose.
Ça dépend, sur des réunions de comité de direction assez essentielles, je peux porter une petite moustache, effectivement.
Oui, parce qu'il faut dire que tu fais un travail très sérieux.
Oui, j'ai un travail dans la vraie vie qui n'a rien à voir avec la musique et Bazooka, c'est un bel exutoire et une belle manière de lier ma passion avec une activité sur le net.
Alors, comme beaucoup de podcasteurs francophones indépendants, on a l'impression que l'instigateur débarque un peu de nulle part et puis souvent, on s'aperçoit que le podcast n'est que l'aboutissement ou la continuité d'activités ou de passions parallèles. Qu'en est-il pour toi, Henri ?
Ben c'est un peu ça. C'est vrai que j'ai toujours été passionné de musique, toujours aimé découvrir des choses que les copains ne connaissaient pas. Et quand les podcasts sont se sont bien démocratisées que j'ai découvert ça. J'avais une petite expérience en web radio. J'ai trouvé ça complètement logique que finalement, au lieu de passer du temps à découvrir les morceaux tout seul, je fasse profiter d'autres personnes. Et puis j'ai découvert les Creative Commons dans la même dynamique et ça m'arrangeait bien pour des raisons d'abord légales parce que on est dans un contexte un peu flou par rapport à la diffusion amateur de musique qui serait déposé à la SACEM et Creative Commons. Au début, c'était une contrainte juridique, si tu veux, et puis après, j'ai découvert des petits joyaux, et je me suis dit, ça, c'est un putain de concept, pardon. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Bazookast.
Bon, ben on va bien sûr parler des Creative Commons de façon très large, mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur toi, ton parcours. Tu as l'air très à l'aise quand tu fais tes émissions. Explique-nous un peu d'où tu viens et comment tu es arrivé jusqu'à cette fameuse émission Bazookast.
Bon, il y a beaucoup de choses. En fait, de par mon cursus professionnel, j'ai un peu touché à tous les médias. J'ai travaillé dans le domaine de la production, de la vidéo. J'ai eu une grande vie de stagiaire à Paris aussi, et j'ai pu vraiment découvrir le milieu de la musique, du clip. Et ensuite, je me suis plutôt spécialisé professionnellement dans la com de bureau, on va dire, entre guillemets. Et j'ai travaillé dans des télé, j'ai créé une web radio ensuite au niveau amateur avec un comparse dans les années 2000. Bref, voilà, j'ai un background qui me fait aimer tout ce qui est de l'ordre de l'entertainment, on va dire de la production audiovisuelle, du son et de l'image.
D'ailleurs, j'ai entendu dans l'émission 6, si je ne m'abuse, que tu avais fait la voix off sur un plateau télé pour annoncer la mort de Sinatra. C'est quoi cette histoire?
Ouais, c'est pas exactement ça. En fait, j'étais stagiaire. Non, j'étais journaliste à l'époque. C'était la deuxième année. J'étais journaliste pour la télévision du festival. C'est la télévision officielle du festival de Cannes, qui d'ailleurs est très présente en ce moment. C'est d'actualité. Et je faisais la traduction en voix off de certains interviews de personnalités, d'acteurs, de réalisateurs pour des petits sujets courts. Et le jour où Sinatra est mort, il y a eu un sujet. Martin Scorsese était président du jury, on l'avait interviewé à l'arraché et j'avais juste traduit le témoignage de Martin Scorsese sur la mort de Sinatra. Alors, faut savoir que Martin Scorsese, c'est un italo-américain, il a un débit à 300 à l'heure, donc j'ai pas compris tout ce qu'il a dit, mais j'aime tellement Sinatra moi-même que j'ai un peu inventé ce qu'il a dit et j'ai mis beaucoup d'émotions là-dedans, donc ça devait pas être loin de ce qu'a dit vraiment Scorsese. Voilà.
D'où ta double carrière d'interprète, hein, donc de star, puisque tu as dû suivre pas mal d'événements dans ce domaine-là.
Ah, c'est une période formidable, ouais.
Et puis donc, on en a parlé il y a un instant, tu as participé à une web radio dans les années 2000 qui s'appelait Les Cools, si je suis bien renseigné.
Oui.
De quoi s'agissait-il?
À l'époque, c'était vraiment une période dorée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médias de ce genre et j'ai découvert en regardant encore le vieux site des Cools que en fait on faisait du podcast sans le savoir parce que non seulement il y avait du streaming de nos émissions, c'est-à-dire de la diffusion en direct, enfin en direct, je sais pas comment on dit en français, en streaming, mais il y avait aussi nos émissions à télécharger en MP3. Donc c'était bien avant la syndication, bien avant iTunes. Bref, c'était peut-être un des premiers podcasts francophones. Et les Cools, c'était un duo comique, on va dire, hein. Et même avec le temps, je réécoute ça, j'en suis très fier.
On peut retrouver ça sur le net quelque part?
Écoute, j'ai déjà donné l'adresse quelque part, mais oui, je pense que c'est encore hébergé quelque part sur un vieil hébergeur gratuit qu'on avait à l'époque. Mais à l'époque, on avait eu une petite notoriété. On était présent sur le site de la chaîne Comédie à l'époque de Farrugia. On avait un petit espace où on mettait nos sketchs. C'était une belle étoile filante cette histoire et les Cools se sont séparés, mais ça n'a pas vieilli d'une ride, je trouve.
Et alors, à l'heure d'aujourd'hui, puisque tu as participé à cette aventure-là, fais-tu une différence entre une web radio et un podcast?
Non. Non, ça va faire bondir un peu mes collègues du groupement des podcasteurs francophones,
Dont on va parler
dont,
également.
voilà, dont on va parler, mais pour moi, il n'y a pas trop de différence. Une différence technique, si tu veux, puisque on ne peut pas théoriquement télécharger une émission de web radio parce qu'elle est streamée, justement. On peut pas, elle n'a pas de support fichier à télécharger. Mais pour moi, c'est exactement la même discipline. J'aurais pu faire Mazoucast en web radio. Non, pour moi, il n'y a aucune différence. C'est un peu une guéguerre inutile. Podcast, web radio, radio, c'est pour moi c'est la même chose.
C'est un peu peut-être aussi la suite logique de la web radio, le podcast.
Oui, c'est plus confortable pour les gens de pouvoir conserver, stocker sur leur iPod les émissions, ce que la web radio ne peut pas. Oui, c'est un confort technologique, quoi, la syndication, voir les nouvelles émissions qui apparaissent automatiquement, voilà, c'est un confort technique.
Alors, lorsque l'on t'écoute d'émission en émission, on s'aperçoit que tu as une culture musicale étonnante, dans la plupart des genres musicaux d'ailleurs, puisque tu nous parles de rock, de folk, de rap, de punk, de reggae, voire même de musique électronique. D'où te vient une telle culture?
Culture, on est. Enfin, je me sens très, très. Ouais. Bon, c'est
Quand tu
gentil,
nous
mais ça.
commentes un morceau, on sent que derrière, tu sais de quoi tu parles.
Bah, peut-être c'est venu un peu comme la cigarette. Au début, on fume pour avoir une contenance en société, et puis ça devient une drogue. J'ai un groupe d'amis dans mon entourage, parmi lesquels se trouvent, selon moi, les plus grosses pointures en culture musicale et sur la musique d'aujourd'hui. Et je pèse mes mots. C'est des garçons qui travaillaient dans l'industrie du disque, notamment. J'ai tout fait pour suivre à peu près leur conversation. Et donc, au début, peut-être que ça avait une fonction sociale. Et puis après, on découvre ces groupes, on a son histoire, son rapport avec la musique. C'est comme ça que c'est venu. Je pense qu'il faut être bien entouré. Quand les gens vous tendent la main, après, même en tout, hein, pas seulement en musique, ça dépend beaucoup de l'entourage. Voilà.
Et tu joues toi-même de la musique?
Oui, je joue de la guitare, je chante, voilà, pour moi c'est cloisonné de bazookas, parce que je pense que j'ai pas envie de mélanger les deux, mais je pense que c'est important par contre qu'un critique musical il sache jouer de la guitare pour pouvoir critiquer un riff ou un guitariste de groupe, je sais pas, j'aime bien penser ça, quoi.
On t'a entendu, je crois, dans une des émissions. Parler, enfin en tout cas je sais plus comment on dit ça en rap, mais en tout cas survoler un morceau de musique pour
Oui,
l'intro du...
je me sers de la musique comme d'un instrument, enfin un instrument comme d'un média. C'est-à-dire que quand je peux faire une connerie en chantant, en jouant de la guitare ou en rappant, je le fais parce que c'est marrant.
Mais on sent que ça te démange quand même de pouvoir peut-être jouer sur tes podcasts.
Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je sais que c'est beau comme image le musicien frustré qui fait critique de musique, mais pas du tout. Même mes amis m'ont poussé à passer mes morceaux dans l'émission, mais vraiment pas du tout. Pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un peu comme si tu me demandais de présenter ma femme au boulot, quoi. Y a aucun lien.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un style de musique que tu ne supportes pas et que tu ne présenteras donc jamais dans Bazookast?
Ben, ce serait un peu antinomique avec mon activité qui se veut quand même. J'aime bien faire découvrir aux gens des extrêmes, un peu tous les styles. Moi, je trouve, enfin, il y a des bons et des mauvais morceaux partout. Ce que j'aime pas, c'est la mauvaise musique tout court. Après, disons que par exemple le rock celte, j'ai un peu de mal, tout ce qui est celtique. Mais je peux trouver des morceaux qui me plaisent là-dedans. Oui, les trucs d'ambient, Deep Forest ou Enya, voilà, j'ai un peu de mal avec ça, mais enfin, j'ai pas de genre qui me repousse particulièrement. Rock celtique, c'est vrai que ça me fait pas monter au plafond.
Alors, Bazoucast est donc un podcast musical faisant écho à ce que tu aimes écouter, le tout via le prisme de la musique libre en général et des Creative Commons en particulier. Alors, peux-tu définir précisément pour les pod-auditeurs qui entendent ce terme pour la première fois ce que sont les Creative Commons?
Alors précisément, là tu me demandes quelque chose de difficile, mais Creative Commons, disons que c'est un moyen pour un créateur de déposer la paternité de son œuvre, de déposer la paternité de son œuvre, tout en permettant une diffusion de cette musique de manière, on va dire, gratuite ou de manière libre. C'est une manière de tracer la paternité d'une œuvre. Et en modulant certaines licences dérivatives de Creative Commons, préciser exactement ce que l'on autorise aux utilisateurs de son œuvre. Alors le partage, le fait que ça soit utilisé à des fins non commerciales, le fait de devoir mentionner systématiquement l'artiste qui a créé l'œuvre. C'est donc, on va dire, j'essaie de prendre une définition alternative à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend tout le temps sur les Creative Commons. On pourrait dire que c'est un formidable moyen de déposer une œuvre. Point.
Mais par exemple, bon, moi demain je suis musicien, je dépose ma propre œuvre. D'ailleurs, entre parenthèses, on n'est pas obligé de déposer les Creative Commons, d'après ce que j'ai compris, uniquement en musique, mais par exemple une émission de radio peut être déposée en Creative Commons.
Alors, à condition que tout le matériel que tu mets dans ton émission de radio et Creative Commons ou n'appartient pas à quelqu'un qui n'aurait pas donné d'autorisation.
Tout à fait. Et alors, par exemple, si demain quelqu'un transgresse le, entre guillemets, la loi, c'est-à-dire qu'il utilise mon œuvre à des fins, par exemple, commerciales ou qui tronque mon œuvre, etc., quel recours j'ai ? Est-ce que les Creative Commons sont à la fois font office de loi ou est-ce que c'est pour l'instant uniquement un label de, je dirais presque de qualité par rapport à la libre expression ?
Alors là, tu viens de toucher très rapidement, en faisant un raccourci d'une heure, les limites, je trouve, hein, c'est mon avis de Creative Commons, c'est que des anecdotes récentes le prouvent, puisque des chaînes ont utilisé des morceaux d'un artiste en Creative Commons. Ça a fait du bruit, certes, il a pu avoir un recours en justice, parce que c'est donc une méthode de dépôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais cela n'a pas la force de frappe répressive qu'a une institution comme la SACEM. Et c'est pas trop le but à l'origine des Creative Commons, mais l'aspect surveillance et répression est pour l'instant absent des Creative Commons, il n'est pas très 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 puissant. Il faut une veille, il faut toute une armature juridique, et là qui fait défaut aux Creative Commons. Ensuite, que tu dises que c'est un label de qualité, je ne pense pas du tout. Il y a énormément de mauvais artistes qui sont en Creative Commons. C'est là, il faut aussi enlever cette image un peu glamour de la musique libre, surtout moi.
Parce qu'il faut préciser que tout le monde peut déposer son œuvre en Creative Commons.
Ah bah oui.
Il n'y a pas quelqu'un derrière un bureau ou derrière son ordinateur qui dise « Ah non, ça, je refuse de le déposer en Creative Commons ».
Non, et c'est là tout l'attrait pour 85% des utilisateurs de cette licence. On parle souvent de... Enfin là, on se désétape, mais on parle souvent d'artistes qui choisissent la liberté par rapport à un système corrompu, etc. Certes, mais ça représente à mon avis 5% des artistes qui sont sous Creative Commons. Il ne faut pas oublier qu'il y a au moins un bon 90% de gens qui sont en Creative Commons parce qu'ils ne seront jamais signés, pas forcément pour des raisons économiques, mais pour des raisons de qualité. Hein. C'est un peu anti-langue de bois ce que je dis, mais c'est la réalité.
Et donc en fait, c'est la date à laquelle on dépose son œuvre qui fait force de loi vis-à-vis effectivement d'un litige en fait.
Oui, sûrement. C'est surtout l'existence en tant que telle et la diffusion, parce que si un morceau est utilisé, on peut supposer qu'il est bon ou qu'il est déjà bien répandu. Et donc à partir de là, c'est déjà une garantie.
Alors, les Creative Commons, on le comprend bien, sont une forme de protection par rapport à la propriété intellectuelle. Mais tous les artistes qui font de la musique libre ne sont pas forcément sous licence Creative Commons. Quels sont les autres vecteurs de la musique libre ?
Alors, il y en a pas mal. Il y a une super adresse sur musiquelibre.org qui est un des portails, justement, tu disais... au niveau, est-ce qu'on sélectionne les morceaux qui passent en Creative Commons? Souvent, cela passe par le biais de portails. Alors, il y a des portails comme Jamendo, il y a des portables comme musiclib.org, et puis chez les Américains, des portables comme Magnatune, comme Opsound. Et selon le portail, ils vont être plus ou moins sélectifs sur les morceaux qu'ils vont héberger, si tu veux. Et donc, sur musiclib.org, qui est plutôt, entre guillemets, souple, mais qui à une sélection tout à fait pertinente en morceaux de musique libre. Il y a un très beau tableau de synthèse sur les différentes licences. Alors, on voit toutes les licences qui sont disponibles pour déposer sa musique de cette manière. Il y a la licence Art Libre, il y a l'Etymonix Free Music License, il y a l'Electronic Frontier Foundation Open Audio License, il y a l'Open Music License. Enfin, il y a beaucoup de licences comme ça, mais la plus connue reste la Creative Commons License. Et ses dérivatifs, c'est-à-dire tu peux cumuler comme des petites options qui précisent en un code en fait, hein, en un suffixe qui suit le mot CC, ce que l'artiste veut bien faire de son morceau. Alors il y a non dérivatif, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on fasse des adaptations de ce travail, non commercial, attribution, c'est-à-dire obligation de dire de qui est le morceau, et share alike, c'est-à-dire est-ce que j'accepte ou non que vous partagez le morceau.
Alors les Creative Commons ne sont pas spécifiquement françaises. Est-ce qu'il existe des systèmes de dépôt de musique libre en France spécifiquement?
Français, tu veux dire d'origine française?
Oui.
Creative Commons, c'est international maintenant, on peut dire. Et puis de ce que j'ai vu sur le site de musiclibre.org, je crois que la licence art libre est d'origine française. Voilà. Mais je pense que la notion de frontière n'a pas beaucoup de sens pour l'instant, et ça le devrait puisque chaque pays a sa propre loi sur les dépôts de musique et c'est
Tout à
souvent
fait.
un casse-tête.
Alors, il faut dire que ces artistes rencontrent un certain succès au niveau des téléchargements sur Internet. Ne penses-tu pas que ce mouvement reste ascendant du simple fait qu'il permet de remplir iPod et autres baladeurs numériques de contenu totalement gratuit?
Alors oui et non. Je vais dire oui dans le sens où si les morceaux qui existent actuellement dans la proposition en musique libre devenaient payants, il y aurait plus qu'un pour cent des téléchargements. Et non, dans le sens que ça voudrait dire qu'il y a une prise de conscience de la part des gens par rapport au peer-to-peer et au téléchargement payant, enfin au téléchargement illégal et la recherche d'une alternative gratuite. Et là, je pense que pas du tout. Je pense qu'on est encore une niche. Les Creative Commons, c'est les gens qui utilisent les morceaux de musique libre, ça reste une niche. Et croire une seule seconde qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça pour remplir son iPod, c'est illusoire. Le premier réflexe qu'un enfant dans un foyer qui vient d'acquérir un ordi va avoir, c'est de télécharger la Starac ou 50 Cent sur un logiciel de peer-to-peer. Donc, j'utilise souvent l'expression construire un barrage de castor face à un tsunami quand on parle des méthodes de répression, de défense, ou de les lois, les amendes, etc. Parce que c'est un joli barrage, mais je crois qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas encore mesuré l'ampleur du phénomène. Alors, je fais pas de jugement de valeur par rapport à ça. Hein. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est inéluctable et qu'il va falloir se gratter la tête par rapport à ça.
Oui, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que la Star Academy est en Creative Commons.
Tu dis ça pour rire, mais je pense que pour un gamin de 15 ans, ça devient compliqué. Je pense que ça devient compliqué parce que il n'a pas connu une seule fois la période où nous on devait aller acheter des disques, quoi. Il y a des gamins qui sont en train d'apprendre la consommation de la musique en téléchargeant gratuitement. Je pense c'est pas si con que ça ce que tu dis.
Alors justement, ça crée une espèce de guerre, on peut dire ça comme ça, entre les labels qui sont là et qui essayent de défendre un peu leur beefsteak, et puis ces artistes qui viennent sur la scène de l'internet en proposant leur musique gratuite. Alors, on va se dire qu'il y a les labels qui vont essayer de récupérer le meilleur de ces artistes, hein. Bon, ça, à mon avis, c'est déjà acquis. Et puis, il y a les artistes qui vont essayer de rentrer dans certains labels après avoir eu une certaine notoriété. Toi, tu penses que la balance va pencher de quel côté?
Moi, pour moi, il n'y a pas de guerre entre ces deux entités. Tu opposes les labels et les artistes. Bon, le débat est passionné en ce moment, donc les gens...
Mais il y a quand même une certaine façon de vouloir s'affranchir de la part des artistes par rapport à un système qui est, bon, souvent on entend dire, un peu pourri.
En fait, il n'y a absolument aucune guerre dans le sens où c'est pas la même chose. T'inquiète pas, que quand on dit musique libre, le mot libre, c'est pas pour les artistes, c'est pour les gens qui vont la consommer, la musique. Parce que l'artiste va gagner des morceaux le moment où il vendra un disque, tu vois. Quoi qu'il arrive, quel que soit le label, la licence, tout ce que tu veux, l'artiste, pour qu'il gagne des sous, il faut qu'il vende son disque. Donc il n'y a pas de guerre entre les labels et les artistes. Il y a de très mauvais artistes qui sont en musique libre et de et des labels très bons, de gens passionnés, qui méritent pas non plus ce qui leur arrive, quoi. Je pense qu'on se trompe de guerre et que s'il y a un grand responsable de la situation du disque aujourd'hui, c'est la grande prostituée que sont les médias. Et je pense qu'on parle pas assez des médias dans les débats sur sur Daftsy, sur le problème du peer-to-peer, de la daube qu'on peut vendre en musique actuellement. Je pense que les médias sont les grands responsables. Et c'est eux qui sont vraiment la cible en général des Creative Commons, des nouvelles communautés d'auditeurs sur Internet, de sites comme MySpace.com. En tant qu'outil média, en tant que générateur de buzz, de réseau, de cooptation, de dire j'aime un morceau, je vais le faire partager aux gens. Et là où est l'intérêt de Creative Commons, c'est pas du tout un modèle économique, Creative Commons. C'est zéro en modèle économique. Tu gagnes pas de sous avec Creative Commons. Par contre, c'est un formidable outil de communication puisque ça permet de fédérer Creative Commons. C'est une marque, donc tu sais qu'en cherchant du Creative Commons, tu vas avoir un ensemble des artistes qui en fait se fédèrent sous cette licence libre et disent répandez les morceaux, faites partager mes morceaux. Mais je crois qu'on se trompe vraiment. Des majors, il y en aura toujours. Mais en tout cas, les labels, il faut vraiment pas diaboliser. Dans une émission récente, j'ai interviewé Eric Morand du label FCOM, qui est un des pionniers de la musique techno. Et c'est vraiment pas marrant de voir... après, on peut critiquer les derniers choix artistiques qu'ils ont fait, etc. Mais c'est pas... il faut sortir de l'image, si tu veux, du gentil artiste victime. Il y a beaucoup de nullos, il y a beaucoup de gens qui sont feignants. Quand je vois les artistes américains ils ont une envie, c'est de faire de la scène tous les soirs. Une artiste comme Jamie à New York qui fait de la scène tous les soirs, même devant 15 personnes. Et c'est une mentalité, tu vois, de conquête. Et je pense qu'il faut déjà pas héroïser les artistes. Et à l'inverse, pas diaboliser les labels. C'est pas que des gens qui ont le cigare aux lèvres et qui disent « je vais t'arnaquer Coco ». Et je pense qu'il faut vraiment avoir un vrai recul par rapport aux médias, parce que pour moi, c'est eux qui décident. Ce que mon neveu de 15 ans va écouter l'été prochain, sont eux qui entretiennent un cercle vicieux, annonceurs, publicité, clips, bourrage de crâne, complètement malsain. Je connais assez le milieu pour le dénoncer. Et le jour où les chaînes de télé diront aux majors « arrêtez de nous, et les gars, arrêtez avec votre Kyo, c'est de la merde, revenez nous voir avec de la vraie musique », peut-être que la situation, elle changera. Mais il y a un cercle vicieux économique et en réalité, pour terminer avec les labels, je pense pas qu'il y ait un seul patron de major qui aiment, qui prennent du plaisir à sortir des merdes. Hein, je pense pas que ce soit une passion que le type va se dire le matin, ah, je vais sortir une bonne merde, ça va plaire aux gens, etc. Mais il se retrouve dans une configuration où il dépend complètement de ce que vont faire les médias de ces morceaux pour la promotion du disque à la télé et en FM. Donc pour moi, c'est très important.
Mais ceci dit, la situation actuelle montre que le média de masse, par exemple comme la radio et la télévision surtout, puisque là on parle vraiment de télévision, les jeunes s'en détournent un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus derrière Internet, derrière justement, comme tu disais, MySpace, plus que derrière leur télévision en train de regarder les clips sur MTV ou MCM.
C'est un début, c'est un début de tendance. Moi, je parle souvent des gosses de 15 ans parce que eux, tu vois, ils vont être sur un Skyblog qui est complètement en possession d'une radio. Donc là, c'est déjà, tu vois, à quel point c'est déjà corrompu le système. Mais progressivement, c'est ça la vraie guerre. Progressivement, je pense que les médias vont complètement prendre une grosse gifle de la part de ce qui se passe actuellement, mais pas forcément les labels, ce n'est pas l'ennemi. Ce sont des marchands de disques, les labels, et pour qu'un artiste gagne des sous, il faut qu'il vende des disques.
Alors justement, dans tes émissions, tu incites les auditeurs à acheter des albums ou des morceaux autoproduits par des artistes issus de la sphère donc de la musique libre. Peut-on parler effectivement à ce niveau-là d'un modèle économique à part entière, dans lequel effectivement, par contre, le label serait carrément hors-jeu ?
Alors c'est assez... j'aime l'idée que encore une fois je ne raye pas les labels, mais parlons des labels en ligne par exemple, un label qui n'existerait que virtuellement. Donc c'est un peu ce que fait un artiste en vendant ses albums, mais ça peut être plusieurs artistes fédérés sous un label, c'est pas un gros mot non plus. J'aime l'idée que au niveau industriel du terme, il y a beaucoup moins de contraintes matérielles, si tu veux, beaucoup moins de contraintes physiques. Donc au sens marketing du terme, un point mort, un point de rentabilité à atteindre qui soit moins important. Et effectivement, quand tu parles de modèle économique, on est trop habitué peut-être à ce qu'un artiste soit, il gagne énormément de sous, soit il vivote. et que peut-être qu'avec la diffusion par Internet et des labels plus légers en structure, on pourrait avoir des artistes qui gagnent correctement leur vie en vendant leurs disques à un public mondial. Et j'aime l'idée d'un artiste qui puisse toucher, je sais pas moi, j'en sais rien, 1 500, 2 000 euros net par mois si tu veux faire de la musique. Après tout, pourquoi gagner des millions d'euros en étant un artiste à succès? Je crois qu'on est trop habitué à l'ancien système, donc peut-être ça peut être un nouveau modèle économique.
Alors justement, il y a une scène dont tu parles pas mal dans tes émissions, qui est la scène de l'antifolk. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Parce que je pense que justement, c'est un peu au cœur de tout ce que tu nous expliques.
Oui, l'antifolk, alors faut pas prendre ça comme une opposition à la folk. L'antifolk, c'est complètement folk, hein. C'est une scène new-yorkaise et qui est une bonne représentation de. En fait, c'est un tube. Imagine un tube. À l'entrée, tu as un clodo. Et parce que c'est souvent des. Bon, il y a un côté un peu folk, hippie. C'est des jeunes qui ont rien sauf leur guitare, qui sont passionnés par leur musique, qui vont jouer dans quelques bars qui font partie des bars mythiques du mouvement anti-folk et qui, de par leur notoriété, sont de vrais tremplins pour une carrière internationale. Et quelques artistes anti-folk sont devenus des gens qui gagnent correctement leur vie grâce au buzz. Et là, on revient une fois de plus sur le média, la notoriété, etc. Anti-folk, c'est une manière de mettre en réseau des artistes qui ont beaucoup de points communs. Pas tant musical, mais c'est un label, entre guillemets, finalement, l'antifolk. Et maintenant, il regroupe pas seulement des artistes new-yorkais, mais des artistes du monde entier. On peut aller sur le site antifolk.net pour voir qu'il y a toutes les nationalités. Donc c'est un label qui, enfin un label, oui, c'est une appellation, si tu veux, de qualité qui fait que des artistes peuvent, en faisant de la scène, en faisant du bon travail d'artisan, arriver à une petite carrière.
Alors justement, il y a cette notion de scène qui est assez intéressante parce que finalement, on pourrait imaginer qu'un artiste ne vive pas seulement que de ses ventes de morceaux sous support numérique ou de disques, etc., mais également de ce qu'il peut jouer sur scène.
Oui, et la scène reste très dans le coup, reste un moyen encore viable de gagner de l'argent, même pour les labels normaux, on va dire, les labels classiques. Ensuite, peut-être, comme je l'ai dit à Eric Morand de FCOM la dernière fois, peut-être qu'il y a des mouvements qui en pâtissent plus que d'autres. Peut-être que la musique électronique, par une tradition peut-être moins généreuse sur scène, n'en profite pas autant que le rock, qui fait un grand retour, comme par hasard, au moment où la scène commence vraiment à se développer parce que c'est un bon moyen de gagner des sous et de faire des tournées, et de continuer à faire du fric, quoi.
Parce que autant on peut pirater un morceau de musique sur Internet en faisant du peer-to-peer, autant pour aller voir un artiste, on est obligé de payer sa place.
Ouais, on n'a pas encore inventé les caméras cachées qui stream de
Oui,
manière en piratant.
puis même au-delà de ça, pour voir vraiment du live, pour voir un artiste qu'on a envie d'écouter en live, ben on est obligé de passer à la caisse et de payer ben, sa place pour pouvoir l'artiste. Donc c'est peut-être aussi cette alternative-là qui est intéressante et peut-être essayer un peu de changer un peu de débat. Parce que c'est vrai qu'on est dans ce débat un peu de guéguerre sur c'est pas bien de télécharger en peer-to-peer. Non, on est d'accord que c'est pas bien de télécharger au peer-to-peer, mais je pense que et les artistes et les labels comme tu viens de nous le, et les labels comme tu viens de nous l'expliquer cherchent des solutions pour pouvoir sortir de cette impasse.
Exactement, je pense que les gens qui sont très donneurs de leçons dans ce débat actuel devraient mettre un peu d'eau dans le vin. Je pense que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et c'est beaucoup plus complexe et beaucoup moins drôle qu'il n'y paraît. Et c'est passionnant, mais pas très drôle. Je veux dire, c'est pas ouais, on fait la guerre, on va aller niquer les labels. Je pense que c'est pas un bon débat.
Alors, j'aimerais maintenant qu'on explore un peu plus Bazookast en tant que podcast. Alors d'abord, pourquoi le nom Bazookast?
Oh, je voulais prendre un truc qui se termine par cast, donc j'hésitais entre Vodcast et Bazookast.
Pas mal, Vodcast.
Oui, mais je pense que ça existait avec vidéo on demand, là, c'est à la mode. Donc j'ai trouvé Bazookast plus beau graphiquement, déjà, au niveau du mot, et puis il y a une connotation balistique et puissante qui me plaisait bien. Voilà.
Oui, on sent que ça explose hein, dès qu'on écoute Bazookast.
Voilà, c'est ce que j'aimerais, en tout cas.
Alors, Bazookast est clairement l'un des podcasts indépendants francophones le plus écouté. Combien d'auditeurs tu penses compter parmi tes fidèles?
Alors, on se casse encore la tête au groupement des podcasteurs francophones pour trouver une bonne méthode de mesure d'un point de vue des audiences. La plus communément admise, c'est les téléchargements, en fait, hein, soit par le biais du lecteur en ligne, soit par le biais d'iTunes. Donc, en moyenne, selon mon hébergeur américain Libsyn, j'ai 1600 auditeurs par émission. Ça veut dire que y en a où je vais faire 1000, il y en a d'autres où je vais faire un petit carton à 2000, quoi.
Alors, dans l'émission 1, tu nous parles du schéma de Verben, qui consiste à dire que les pros essaient de jouer les amateurs et les amateurs essaient de jouer les pros. Ce que je trouve d'ailleurs assez juste dans le mouvement du podcasting en général. Avec Bazoucast, t'inscris-tu toi-même dans le schéma de Verben?
Ah oui, en fait, ce schéma de Verben, c'est ce phénomène qui consiste à observer que les classes sociales aisées vont se mettre à porter du streetwear, tu vois, très cher, et que les classes populaires vont essayer de porter du Lacoste. Et ça, c'est applicable à tout. C'est le bourgeois essaie de jouer la racaille, et la racaille va apporter des signes extérieurs de richesse. Et c'est un peu ça dans le podcast, où, mais en fait, finalement, pas tant que ça. C'était dans l'émission 1 que je disais ça, mais j'ai remarqué après très rapidement que c'était pas le cas. En tout cas, au niveau des tendances, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ma première émission, j'essayais d'être le plus pro possible. Mais on remarque dans le milieu du podcast que quand un animateur, bon, c'était pas mon cas, on me l'a jamais reproché, mais quand quelqu'un essaie de faire un super jingle ou essaie vraiment de récupérer des outils de production qui viennent de l'AFM, il se fait immédiatement critiquer en disant c'est trop FM, c'est trop radio ton truc. Il y a encore, c'est encore un tabou ça de pas comparer les podcasts à la radio. Donc j'avais tort quand je disais ça.
Alors, si un jour on te proposait par contre de transformer Bazoucast en une vraie émission de radio diffusée sur les ondes, en plus éventuellement de ta formule podcast, accepterais-tu?
Bien sûr, bien sûr. Pour moi, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, il n'y a aucune différence. Si à l'époque de lancer Bazoucast, j'avais un émetteur FM, j'aurais fait de la radio, ça aurait été de la CB ou n'importe quoi qui passe par la voix. Bon, après, c'est antinomique avec le concept de Bazoucast parce que si j'acceptais de faire de l'AFM, bon, gentiment, j'en ferais régulièrement comme ça. Mais si je voudrais être rémunéré de tout ça deviendrait problématique avec la musique Creative Commons et puis sur une radio FM avec des annonceurs puisque je ne suis pas censé toucher de revenus commerciaux à partir des artistes sous licence Creative Commons ou alors je dois leur rétribuer des royalties à discuter avec eux. Donc c'est un peu antinomique avec le concept même de Bazoucast, mais si un jour on me propose de faire une émission FM, bien sûr que je dis oui.
On te proposera de critiquer les artistes qui sont dans les labels.
Ouais, mais pour moi c'est le même plaisir. Si vraiment j'avais le moyen juridique de le faire, enfin ou alors si j'avais le fric pour payer la redevance SACEM, je le ferais.
Alors, chaque émission a une couleur musicale ou du moins un fil rouge plus ou moins indépendant. Du coup, depuis le départ, chaque émission a sa propre identité. Comptes-tu continuer sur cette lancée d'expérimentation permanente ou penses-tu plutôt asseoir un format, voire une formule plus récurrente?
Alors, il y a deux cas. Il y a les cas où le sujet de l'émission vient tout seul, par un hasard magnifique, et d'autres où j'essaie, oui, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire que l'objet soit plus joli, de trouver un thème un peu cohérent. Des fois, c'est quelque chose qui n'est pas évident. La spéciale country, bon, il y avait de la vraie country, celle que on s'imagine, et puis il y avait des morceaux qui sont plutôt folk, mais qui pour moi sont 100% country dans l'esprit, quoi. Donc, c'est des petits liens, on va dire, entre les morceaux. Des fois, c'est beaucoup plus évident, et des fois un peu moins, mais j'aime bien le fait de mettre un peu un thème aux émissions.
Alors, je me suis laissé entendre dire que l'émission dont tu étais la plus fière était l'émission 3.
Oui.
Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus et pourquoi?
Alors l'émission 3, c'est une émission qui s'est faite pendant le. Ben là, ça rejoint ce que je te dis sur des émissions qui vraiment apparaissent d'elles-mêmes et ça fait vraiment Cuculapraline, l'écrivain qui dit les personnages sont venus à moi, tu vois. Mais là, vraiment pour le coup, c'était ça. C'était pendant les inondations de la Nouvelle-Orléans. Donc on avait à la télévision ces images de la communauté noire laissées dans les inondations avec de l'eau jusqu'au cou, les corps qui flottent et les sauveteurs qui sauvent que les blancs. Enfin, une ambiance terrible, humide, Saint-Louis, la Louisiane, etc. Ensuite, je tombais parallèlement sur un extrait, une archive audio du suicide collectif de la secte de Jonestown, de Jim Jones, où justement à Guyana, des centaines de Noirs américains qui sont tombés dans les promesses de fraternité, d'accès à un paradis qu'ils n'ont pas dans la société. Enfin bref, encore une fois, la communauté noire un peu trompée et tuée. Et, enfin, il y avait une espèce d'image lointaine et j'ai pas essayé de faire de comparaison ni quoi que ce soit, mais tout ça est venu en même temps. Et à côté de ça, j'avais des morceaux vraiment country, vraiment moites de cette région de la Louisiane. Et il y a une sorte d'imbrication totale entre tout ce que j'avais. Et c'est vraiment mon émission préférée où il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Alors, bien sûr, c'est pas celle qui est la plus commerciale, entre guillemets. C'était spécial suicide collectif presque, tu vois. C'était pas vraiment le truc le plus marrant à écouter, mais elle est venue d'elle-même et pour moi c'était vraiment un instant magique, quoi. Et c'était vraiment un moment de recueillement. Il y avait vraiment pas une seule fois en écoutant cette émission on voit du voyeurisme ou un plaisir macabre. C'était vraiment une émission de recueillement et c'était vraiment, je suis très fier de cette émission.
Ceci dit, elle est assez impressionnante pour l'avoir écoutée. Tu n'as pas eu peur de choquer justement les gens par rapport à ce contenu assez morbide?
Le son, c'est le plus dangereux en général parce que c'est l'imagination qui parle des gens. Tu peux faire écouter l'archive audio donc de ce suicide collectif. En fait, c'est le prêcheur, le gourou qui parle au micro et des membres de la secte qui disent au revoir l'un après l'autre au micro. Et selon les gens qui l'écoutent, il y en a une personne qui va entendre quelqu'un crier en arrière-plan, l'autre qui va entendre un truc tout à fait banal. Donc ça dépend vraiment de l'interprétation des gens et il faut laisser un peu ce. Il n'y avait rien de choquant ou de vraiment inécoutable, mais c'est l'imagination qui va te donner tes pires cauchemars par rapport à ça. Donc non, j'avais pas d'avertissement à donner, puisque la seule chose qui peut faire peur, c'est ce qu'on va interpréter nous par rapport au truc.
Alors, autre émission clé, voire autre émission culte de Bazoucast, l'édition spéciale filles. Pourquoi avoir interviewé Ophélie du blog Bite Girls alors qu'il n'y avait pas de connexion directe avec la musique libre que tu as l'habitude de faire écouter?
Alors, trois raisons. La première, c'est que je me donne la liberté dans Bazoucast de vraiment si j'ai envie de faire autre chose que quelque chose qui soit en lien direct avec la musique libre. Deuxième chose, Ophélie, je la connaissais depuis longtemps et pour moi son blog était quand même emblématique d'une certaine hype et d'une certaine communauté qui m'intéresse et qui est très riche en création, en travail collaboratif et en ça c'est directement lié avec pas la musique libre mais l'art libre puisqu'il y a beaucoup d'œuvres collectives dans ce milieu-là, etc. Et troisièmement, je savais que ça allait faire une méga audience parce que Ophélie est une fille est une jolie lesbienne intelligente qui a un blog rayonnant qui fait son journal intime qui travaille dans des projets mêlant l'érotisme à la communauté lesbienne et je savais que ça allait plaire aux gens et c'est enfin des gens peut-être pas pour les bonnes raisons mais voilà c'était un mélange de tout ça.
Donc t'as fait le carton.
Ah là, carton plein. Je savais, mais carton plein et pas. Alors là, pas des gens qui tapaient lesbiennes sur Google pour voir des filles. Vraiment carton plein. Je pense aussi dans la communauté lesbienne. On a parlé de mon émission dans le forum du Pulp, qui est le temple du milieu à Paris. Ça m'a fait vachement plaisir, quoi. Les réactions et voilà, ça m'a fait plaisir et carton plein ouais,
Enfin, en tout
sur
cas, moi
cette
j'ai trouvé
émission.
que l'interview était assez bien menée et que y avait, même si elle faisait partie de la communauté lesbienne, aucune connotation, on va dire, crue ni.
Pas du tout. En plus, c'est mal. Ouais. Enfin, ceux qui pensaient s'attendre à ça, c'était mal la connaître, parce que vraiment, c'est la classe cette fille. Et c'est vraiment la dernière des. C'est une fille qui a la classe. Donc, il n'y avait aucun danger par rapport à ça.
Je suis assez d'accord avec toi. Alors, dans un tout autre domaine, tu as déjà eu l'opportunité d'interviewer Frédéric Landini du Midi Festival. Les festivals vont-ils continuer à avoir une place dans Bazoucast?
Quand j'en ai l'opportunité, le Midi Festival, je vais le suivre parce que Frédéric, c'est vraiment un ami et j'aime sa politique, j'aime son univers et
Alors, on va peut-être rappeler quand se passe le Midi Festival?
c'est en août. J'ai pas les dates exactes, il faut aller sur le site myspace.com/midifestival pour avoir les dates. C'est un festival que j'aime beaucoup. Ensuite, franchement, Je n'ai pas le courage de faire le roadie et d'aller sur des festivals. Je pense que pour ça, il y a un super podcast, c'est Melting Pod de notre amie Annie, un podcast, un des plus anciens podcasts francophones, où Annie, enfin francophone non, c'est en anglais, mais c'est une Française, elle parcourt les festivals et a ce courage-là. Moi, j'ai pas ce courage-là. Je ne pense pas que je vais être un grand parcoureur de festivals.
Alors, bien que la qualité sonore des émissions soit, à mon sens, nickel, par rapport au son en tout cas, certains y trouvent tout de même de petits défauts. As-tu résolu tes problèmes de médium dans ta voix?
Ouais, ça c'est je pense que tu fais allusion à une private joke. Après mon émission 1, j'ai reçu un mail de Bertrand Lenôtre, qui, pour les gens qui ne connaissent pas trop le milieu du podcast, est vraiment le pape du podcasting français. C'est un type talentueux, généreux, doué. Bref, c'est vraiment le type unanimement respecté dans le milieu. Et bref, pour rigoler, enfin, il rigolait pas, lui. Il me disait que j'avais un peu trop de médium dans ma voix. Et j'avais fait un jeu de mots, c'était plus stupide dans mon émission 2, alors que j'aurais dû faire ses louanges.
D'ailleurs, à ce propos, tu peux nous expliquer un petit peu quel type de matériel tu utilises pour enregistrer Bazookast?
Oui, j'ai un peu mon attirail de musicien que j'avais d'auparavant. J'ai un micro professionnel, une formidable petite boîte qui s'appelle la M-Box, qui se branche en USB sur mon ordi, qui permet une acquisition pro du son normalement. Et j'arrive néanmoins à faire une prise de son assez pourrie, quand mes copains qui ont le même matériel écoutent mes émissions et ils comprennent pas comment je peux avoir un son comme ça avec un si beau matos. Mais au moins c'est simple et voilà.
Il faut que tu engages un ingénieur du son.
Oui, j'ai entendu que Saskia, une collègue qui fait un podcast musical, aimerait sous-traiter sa production.
D'ailleurs, tu as un bonjour, oui, de Saskia.
Allez, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais oui, ça m'a fait beaucoup rire. Je veux dire, le podcast amateur, si on commence à sous-traiter la technique, je pense que c'est bien.
Alors, la durée de tes émissions te semble primordiale. Enfin, en tout cas, tu y reviens de façon assez récurrente. Ne penses-tu pas que dans l'esprit du podcast, tant que le contenu est bon, peu importe la durée d'un épisode?
Mais la durée d'un épisode fait partie intégrante du contenu. Le contenu, ça va être la playlist, la programmation, mais aussi le contenu. Pour moi, c'est le quatrième pilier de ce qu'on appelle un contenu. Il y a des gars super intéressants que tu rencontres parmi tes copains et qui va toujours être trop long. C'est-à-dire qu'il va dire que des choses intelligentes, mais au bout de 3 heures, peut-être que t'en as marre. Alors que t'as peut-être des copains moins intelligents, mais qui vont parler 10 minutes et ça va être parfait. Et je pense que les émissions, c'est un peu ça. Il faut faire un bon mélange entre la qualité peut-être de ce que tu vas dire ou des morceaux que tu vas passer, mais la durée est importante aussi.
Oui, parce qu'on voit dans la communauté des podcasts francophones, ça va du 3 minutes jusqu'à l'heure et demie. Hein. Il y a un peu
oui.
de tout.
Voilà, ça c'est une grosse différence avec la radio au final. Quand on parlait des différences entre la radio et les podcasts, c'est ça vraiment. C'est le format. Et on peut dépasser, on peut faire ce qu'on veut, on peut ne pas être régulier, on peut faire une émission par mois comme une émission par jour, on peut faire des hors-séries quand on veut. Et ça c'est super par rapport au podcast.
Alors techniquement, tu ne chapitres pas tes émissions, mais je pense que c'est venu du fait que tu travailles sur PC.
Exactement.
Donc, Exactement. Dès qu'il y aura la possibilité, tu le feras ou est-ce que
ouais,
c'est.
Bien sûr. Ouais.
Parce que c'est vrai que moi, quand je suis revenu un petit peu sur tes émissions en préparant cette interview, j'avais envie de temps en temps de pouvoir jumper d'un titre à l'autre pour pouvoir.
La honte! Tu voulais jumper dans mes émissions, toi?
Eh ben écoute,
ça il faut écouter l'émission en entier,
ah
mon
mais
gars.
Oui, mais alors attends, quand tu l'as écouté une fois en entier, il y a un moment où, par exemple, tu vois, il y avait des
ouais,
titres
tu voulais
de.
Tu arriver directement à Ophélie, tu voulais passer les scènes d'exposition, tu voulais passer tout de suite à l'action, toi.
Eh ben tu vois, tu comprends vite, hein.
non, le chapitrage c'est super. En plus, on peut mettre des images. Non, j'aime bien, mais sur PC, pour l'instant, je crois pas qu'il y ait de solution technique, donc j'attends patiemment. C'est pas ça qui va me faire switcher, hein. Mais j'attends patiemment.
Alors, tu as proposé sur ton podcast de Bazookast 3 séquences vidéo depuis le départ. Bazookast pourrait-il un jour devenir un podcast vidéo à part entière, ou bien préfères-tu t'en tenir principalement à un format audio?
Complètement, je crois que on va de, tu vas voir qu'au fur et à mesure des questions que je suis un peu, que j'ai aucune morale par rapport au support, mais j'ai pas d'affectif sur le média en tant que tel. Si je peux, j'aime beaucoup la vidéo et je pense que je sauterai sur le pas le jour où j'aurai retrouvé un matériel correct, parce que là je suis un peu en panne de caméra, etc. Mais bien sûr, je m'éclaterai à faire un podcast vidéo et il faut savoir au niveau de l'audience que quand on est podcasteur, vous pouvez mettre 5 secondes de vidéo, ce sera toujours 20 fois plus regardé qu'une émission de qualité que vous allez mettre une heure après, enfin plusieurs heures à préparer. J'en ai fait l'expérience. Pour l'instant, sur Bazooka, il y a une raison pour laquelle je mets la vidéo, c'est l'audience, c'est-à-dire réussir à récupérer une souche de gens. Alors je vais mettre une vidéo de, par exemple sur Mario Bros pour attirer les gens un peu geeks qui aiment la musique, les parodies, les trucs comme ça. Vraiment, c'est passionnant la vidéo pour découvrir un nouveau public et moi je sauterai à fond sur l'occasion le jour où je pourrai faire la vidéo et je me réserve la possibilité d'en faire.
Et puis bon, peut-être que la façon d'écouter Bazoocast ne serait pas la même façon si c'était que de la vidéo, que de l'audio. Par exemple, moi je sais que je t'embarque dans mon iPod. Bon, je sais pas si tout était en vidéo. Si je. Déjà, je pourrais pas, parce que.
Oh, c'est une autre pratique, c'est un autre média. Enfin, pour moi, c'est pas. Ouais, effectivement, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas pareil. Ça se regarde pas au même moment. Ça, une vidéo, ça, enfin, ça s'ouvre sur son ordi ou sur son iPod vidéo. Bon, ça reste une niche. Mais j'ai pas du tout la même pratique des podcasts audio que des podcasts vidéo moi-même. Et c'est pas le but d'ailleurs.
Alors, nous sommes, toi comme moi, membres du GPF. Et d'après ce que je peux voir, tu es un membre très actif. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le GPF?
Alors le GPF, c'est le groupement des podcasteurs francophones ou français plutôt, enfin bref les deux. C'est tous les podcasteurs qui sont français ou qui parlent français, pour résumer, qui se sont réunis dans un espace de discussion, d'échange, qui est réservé donc aux podcasteurs et qui permet donc des discussions sur le podcasting en tant que discipline, sur les solutions techniques, les nouveautés, les nouveaux membres, les tendances, on discute de tout. Et c'est devenu un. Au début, c'était un peu un pari impossible qui a été fait par quelques piliers du podcasting français, donc Kenji de Comme ça du Japon, je vais en oublier, ça m'énerve, mais Pierre Journel, Désiré Belladone, quelques membres vraiment qui sont importants dans le podcasting francophone. Et de par une autodiscipline, une bonne humeur, ça a évité tous les écueils qu'on peut connaître d'un forum sur Internet où il y a toujours des grosses disputes, où il y a toujours à un moment des débats interminables. Alors il y a des débats, mais il y a une ambiance formidable. Ça fait presque, je sais pas, un an que le GPF existe et c'est un endroit d'échange assez passionnant.
Tout à fait. Enfin, moi, je suis ça toujours de très près. Bon, même si j'ai pas forcément toujours le temps d'y intervenir, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes actives et je pense une forme de copinage qui est arrivée où les gens ont plaisir à
Bon,
discuter
bien sûr,
et
il y
à
a des
débattre.
bandits,
Ouais.
hein. Il y a des
Il y
bandits
a
dans
des bandits
l'équipe. Hein.
comme partout.
Frédéric Gallinet de Podcast. Bon, si on pouvait s'en débarrasser, ce serait pas mal, hein, entre
T'as pas trouvé le
parenthèses.
moyen encore, hein?
Non, 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 mais bon, voilà. Mais enfin bref, GPF, c'est un gros lobby qui est fréquemment consulté par l'Élysée, par le ministère de la Culture, pour faire des pressions à échelle mondiale sur certaines industries. Bref, voilà, on s'échange des mallettes pleines d'argent, on fait des sacrifices humains, bref, un club comme tous les autres.
Voilà, c'est ça, c'est une secte en fait.
Non, non, une secte, c'est un gourou. Là, il y a 15 gourous. Un beau plat de spaghettis plutôt.
Alors justement, face à l'histoire, on a l'impression que les podcasteurs indépendants dont on vient de parler, qui se sont lancés donc tous en 2005, hein, puisque c'était l'année du l'an 1 du podcasting, ne pèseront pas lourd face aux médias traditionnels et face à l'histoire que vont faire un petit peu les programmes de podcast des grandes radios nationales et de la télévision. À son sens, que pourrait-on faire pour que les podcasteurs indépendants inversent plus ou moins la tendance?
Alors dans ta question, tu induis que les gens veulent inverser la tendance. Et alors, je ne parle pas pour moi, mais pour de l'avis de l'ensemble des podcasteurs sur le GPF, je n'ai pas vu ce souhait particulier. pense qu'ils sont tous assez fiers et contents de leur public, de leurs fidèles, déjà de l'audience pour eux qui est énorme, des gens qui viennent pour 1600 auditeurs par émission, c'est formidable. Pierre Journel a fêté, c'est un an d'un podcast qui s'appelle la petite cabane au Canada, le podcast de la cabane au Canada. Et il a son audience et il n'a pas forcément la volonté de centupler son audience. Donc ta question, elle induit le fait que les podcasteurs voudraient absolument inverser la tendance et battre les podcasts professionnels.
Non, mais c'est pas vraiment de ça que je voulais parler. C'est pas le fait de vouloir battre. C'est par exemple par rapport à la presse, par rapport à un certain écho des médias.
Ah, j'ai compris où tu voulais en venir.
Le podcasting d'accord. est interprété comme étant émanant oui. plutôt des grands médias, c'est-à-dire que podcast, derrière podcast, aujourd'hui on met Europe 1, RMC, TF1, et on ne mettra jamais des gens comme toi, comme moi, ou comme Pierre Journel, ou Désiré par exemple.
Le GPF est très sympathique, mais un gros défaut, c'est qu'il est très feignant. Et par rapport au... Il y a des gens, des blogueurs, des semi-podcasteurs qui parlent plus du podcast au quotidien que certains podcasteurs qu'on n'a pas fait l'effort, si tu veux, didactique, de vulgarisation, de communication de la discipline auprès des médias. Et c'est vrai que l'image du podcasting, c'est avant tout les radios qui ont fait leur émission en podcast, qui sont venus plus tard que ces podcasteurs indépendants, mais il faut regretter qu'on ne soit pas mis au travail plus tôt pour faire valoir le podcasting amateur. On n'a absolument même voire rien fait du tout. Et je pense qu'il est temps pour les podcasteurs indépendants de devenir un peu plus forts, avoir plus de représentation au niveau des médias et de s'associer dans une vraie démarche d'action proactive pour faire connaître ce média indépendant francophone.
Alors, dans son fameux podcast Ma Parole, Désiré Belladone avait fait il y a quelques mois, donc Désiré Belladone qui est une autre figure du podcasting français.
Désiré, si tu nous regardes.
Oui, enfin plutôt nous écoute. Hein.
Ah, si tu nous écoutes, oui, pardon.
Donc,
tu vois le réflexe.
Ah oui, c'est dingue. Hein. Donc passe tout de suite à la vidéo. Donc Désiré Belladone, autre figure du podcasting à la française, a déjà rapproché le mouvement du podcast indépendant avec le phénomène des radios libres des années 80. Lorsqu'on voit de quoi est fait la bande FM aujourd'hui, n'as-tu pas peur que le podcasting ne subisse le même sort ?
J'en ai pas peur. Peur, c'est un bien grand mot. Ensuite, la comparaison avec les radios libres et les podcasts... Il faut quand même remettre ça dans un contexte. Quand même. Et les radios libres, il y avait une vraie... On écoute, Désiré a fait deux émissions absolument mythiques, franchement, à aller écouter sur son podcast, Ma Parole, où il a passé des extraits des débuts de la radio libre. Et c'est vrai que des fois, c'est vraiment étonnant. Mais à la phrase près, ce sont des phrases qu'ont dit les podcasteurs, là, en commençant leurs premières émissions, du genre, mon micro marche pas très bien, on est 15 dans la pièce, c'est un peu le bordel. Il y avait ce côté liberté. Mais après, il faut pas oublier que les radios libres étaient vraiment politisées. Dans le bon sens du terme, il y avait vraiment une volonté de changer le monde. C'était un truc de fou, la radio libre à l'époque. Il y avait un message derrière, libertaire. Et les podcasts, c'est pas du tout ça. On est quand même une génération, ça resterait, enfin, très gentil, hein, les podcasts. Il y a pas ce côté revendicatif. Il y a très peu de politisés dans le podcast. Il y en a quelques-uns, gentiment, mais on reste des garçons bien coiffés. Et d'ailleurs, on peut râler contre ça. On reste des gentils garçons bien coiffés qui parlent d'Apple, les podcasts, thèmes de podcasts, c'est jamais des trucs bien méchants, quoi. Et donc j'arrêterai très vite la comparaison entre les radios libres et les podcasts. Et l'arrêt des radios libres, ça n'a pas été le capital qui l'a provoqué, c'est la politique justement. C'est le gouvernement qui a provoqué l'arrêt de la radio libre. Or le podcast ne nuit pas au gouvernement. Et donc dans ce sens-là, c'est le capital qui, enfin le capital, quand je dis capital, c'est l'empire, c'est au sens d'Antonio Negri, c'est la sphère privée, les entreprises qui essaieront de tuer le podcast, mais pas l'État, pas la politique, il n'y a pas d'intérêt. On voit bien que la politique, mais là on rentre dans un autre débat, n'a plus grand chose à dire dans tout ça. On voit pour les lois d'AFTSI, c'était un peu ridicule de voir la politique s'en mêler, puisque c'est vraiment un problème 100% économique. Donc c'est très différent quand même, les problématiques, hein, quand tu parles d'extinction, etc.
Alors on va voir aussi ce que va donner la campagne des élections présidentielles qui se profile et voir un peu de quoi va être fait le podcasting justement parce que bon bah c'est une façon de pouvoir prendre la parole de façon on va dire entre guillemets intempestive face justement à des règles très strictes du CSA par rapport aux
Oui, c'est une
télévisions, aux
vraie
radios
question, ça.
et peut-être que ça va être l'occasion. La période qui va peut-être débrider justement le média.
Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que la CSA n'a pas encore réglementé le podcast en tant que média politique au niveau des temps de parole, etc.
Mais mieux que
Les hommes
ça,
politiques.
le CSA l'a mis carrément hors jeu par rapport
Voilà,
au temps de
bon,
parole.
c'est formidable. Ben alors, ça va être vraiment très excitant tout ça, sachant que aussi, là aussi, il ne faut pas rejeter les professionnels pour autant. Il y a des sortes de parias des médias comme John Paul Lepers, l'ancien journaliste de Canal Zéro, qui est très poil à gratter, qui fait son podcast vidéo. Tout ça, il y a un vent de liberté quand même sur les blogs de ces gens-là, qui va être très excitant aussi. Donc, oui, effectivement, je pense qu'on va garer nos iPods d'émissions passionnantes à la veille des présidentielles. Enfin, j'espère.
Bon, en tout cas, à voir. Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, le problème le plus épineux face à l'investissement personnel que tous les podcasteurs indépendants ont, c'est la question économique. Parce que un podcast à construire, ça prend du temps. Et ce temps-là, bon, ben, pour l'instant, on le prend sur des heures de loisir. Mais le jour où on veut, ou en tout cas un podcasteur indépendant veut se lancer vraiment, eh ben, il va falloir qu'ils trouvent le modèle économique. Alors, est-ce que toi, tu as déjà une idée de ce que pourrait être le modèle économique pour un podcasteur indépendant?
Il n'y a pas de miracle non plus, hein. On va pas réinventer le monde. Il faut offrir un service à quelqu'un. Donc à partir de là, voilà. Il faut que le service soit bon. Alors soit tu fais un service aux entreprises, aux annonceurs en passant des publicités, soit tu fais un service à l'auditeur qui vaille la peine d'acheter tes épisodes, ce qui n'existe pas vraiment encore, hein. Ou alors des scoops monstrueux sur quelque chose. Je sais pas, mais il faut un service. Il faut d'une manière ou d'une autre que tu donnes quelque chose contre quoi les gens sont prêts à donner de l'argent. Donc soit tu deviens méga culte et tu vends tes émissions, mais j'y crois très moyennement, mais soit tu passes des pubs audio, des jingles, hein, c'est pas non plus monstrueux de mettre des jingles dans une émission. Voilà. Mais c'est antinomique avec certains formats comme Mazoukas par exemple où je ne peux pas dégager de revenus, donc tu vois que je suis vite enfermé dans le concept, ce qui me réserve la liberté peut-être de passer à autre chose le jour où j'ai des opportunités.
Et puis aussi, ça te permet d'avoir cette liberté de pouvoir enregistrer tes émissions quand tu le veux.
Exactement, exactement. Ouais. Enfin, si demain quelqu'un vient te voir Vertigo et te dit voilà, je te file 500 euros, enfin 500 euros par émission si tu en fais deux par mois. On va faire un petit effort pour les faire, quoi. Je veux dire, c'est pas. On a la liberté effectivement d'être en retard, si tu veux, mais je veux dire, c'est pas. Ça va pas nous corrompre totalement que de nous bouger un peu les fesses pour enregistrer l'émission 3 jours avant plutôt que d'habitude.
Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de tout doucement vers la fin de cette interview. Et pour conclure, j'aimerais que tu nous dises quels sont selon toi les éléments moteurs des émissions qui te permettent de continuer vers une saison 2 de Bazoucast.
Je veux continuer à trouver des trucs qui me font faire waouh quoi quand je les écoute au niveau de la musique. J'aime beaucoup. Je suis assez obsédé par les courbes et j'aime beaucoup voir mes audiences augmenter. C'est vraiment ma motivation. C'est peut-être une déformation marketing, mais je suis un peu obsédé par ça, par le fait de voir les gens revenir, apprécier le format et voilà. C'est tant que ça évolue, je continuerai.
Alors, nous sommes encore dans la saison 1 de Bazoucast. Quand s'achèvera-t-elle pour laisser la place à la saison 2?
Ben, très logiquement en août, puisque la première émission c'était en août, je crois, et la saison 2 marquera un nouveau format, je l'espère, où je commencerai doucement peut-être à parler d'autres choses que de musique libre, tout en gardant vraiment l'identité de programmation, de playlist Creative Commons, de parler peut-être d'autres choses, je sais pas, j'ai quelques pistes, et puis on a parlé de la vidéo aussi, j'aimerais vraiment faire un format récurrent en vidéo, peut-être en anglais également. Et voilà quoi, bref, tout ça c'est très excitant et je veux continuer tant que les gens me jettent pas de tomates ou tant que ça évolue quoi.
Non, mais de toute façon, virtuellement, on aura un peu de mal à te jeter des tomates, mais bon,
C'est pour ça que je continue,
on va essayer,
principalement.
hein. Ben écoute, merci Henri, merci de t'être prêté à cette interview dans laquelle on aura pris la dimension de tes passions. Je
Merci,
rappelle que
merci.
l'on peut retrouver ton podcast sur le site internet www.bazoucast.com.
Attends, stop, 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 pardon.
Ah,
Faut
vas-y.
faire comme, il faut faire comme Loïc Lemaire dans ses émissions, on ne te rappelle pas. Il disait, on peut retrouver ton émission sur le site bazoucast.com. Il faisait des bruits de touche.
Oh
Ça
là
fait mieux.
là, ouais, non
Je
mais
donne des
bon.
conseils techniques pour avoir plus d'audience.
Ouais, mais bon, moi je m'appelle pas Loïc Lemaire, alors qu'est-ce que tu
Alors,
veux?
redis l'adresse et moi je tape les touches. Vas-y.
Alors, www.bazoucast.com.
Voilà, c'est beaucoup
Magnifique,
mieux. Les gens
magnifique.
comprennent mieux.
Voilà. Ou directement sur d'ailleurs sur iTunes en tapant Bazoucast, BAZOOCAST.
Voilà, c'est fait.
Bon, mais sûr, tout ça dans le moteur de recherche de l'iTunes Music Store, hein, ne vous perdez pas parce que c'est vrai que des fois on peut se perdre.
C'est
Voilà.
vrai. Et des gens sont disparus par rapport à ça.
Voilà, ouais. Donc bah voilà, iTunes, Internet, vous pouvez retrouver Henri Michel sur l'excellent Bazoucast. Quant à nous, podéditrices, podauditeurs, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de Podcast et nous. En attendant, continuez à lire le blog sur www.lepodauditeur.com. Salut, salut. Salut Henri.
Salut!
À la prochaine.
Ciao!
Merci, bye bye.
Podcastez-nous pour le pot d'auditeur.
Ben voilà, c'était excellent ça.
Ouais, c'était intéressant. J'ai pris du plaisir.